Un grand, grand merci pour cette communication qui nous a vraiment mis au point sur les définitions, sur les termes juridiques, pour comprendre ce que c'est une femme, ce que c'est les violences. Et puis, bien sûr, ta sélection des exemples, on est un peu sous le choc, mais en même temps, ça nous permet d'être au courant, comme tu as dit, d'être au courant que ça existe. Parce qu'il y a certains exemples que tu as donnés, on ne voit pas tous les jours dans les médias. Est-ce qu'il y aura des questions pour Alexandrine par rapport à sa communication et ses axes de recherche?
Je vous ai refroidi avec les derniers exemples.
Parmi les derniers exemples, tu mentionnais le Canada, mais c'était le cas en Irlande aussi. Quand une jeune fille se retrouvait enceinte sans être mariée.
Avec les Magdalene Laundries.
Elle était rejetée par sa famille, envoyée dans des institutions religieuses où elles étaient censées laver le linge du voisinage. C'était les Magdalene Laundries, effectivement. C'était une manière symbolique de laver leurs péchés, entre guillemets. Et une fois que l'enfant naissait, les religieuses les faisaient adopter aux États-Unis. Et récolter l'argent, et quand l'enfant n'était pas en bonne santé, il mourait, on a retrouvé des fosses des enfants comme ça.
Oui, absolument. Il y a eu pas mal de films d'ailleurs.
Philomena.
Exactement, oui.
Et puis The Magdalene Movie.
Oui, tout à fait.
Peut-être juste deux mots sur ton choix d'image, parce qu'on a une affiche qui est particulièrement visuellement tranchante.
Effectivement, si je reviens au début, ici, c'était une image que j'avais sélectionnée, et notamment parce qu'elle permet de montrer que les femmes racisées se sont mobilisées elles-mêmes. Et qu'elles ont réclamé entre guillemets leur voix pour faire valoir donc leurs droits reproductifs. Et donc on voit bien ici donc au fond, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais il y a écrit We demand reproductive rights. On ne peut pas lire la suite de l'affiche, mais je crois que c'est For all women. Et puis on voit effectivement ici. Une femme autochtone, une femme African-American, une femme qui est sans doute latina, et puis peut-être, j'imagine, peut-être les deux femmes du centre sont autochtones. C'est pas très clair, mais en tout cas, voilà, je trouvais que c'était très important de montrer que c'était aussi des mouvements militants qui s'organisent, qu'on pourrait appeler grassroots movements. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est projeté d'en haut sur des communautés, mais au contraire qui vient d'en bas, hein, top-down, bottom-up, et qui permet aussi à ces groupes de femmes de garder une forme d'agentivité et de contrer entre guillemets un féminisme blanc qui garde souvent la mainmise sur les représentations médiatiques, ou en tout cas qui est beaucoup plus souvent au centre de l'attention. Donc je trouvais que c'était vraiment important de rendre hommage à leur combat à la fois militant et théorique. Parce que je pense que ce paradigme de la justice reproductive, il est vraiment extrêmement fécond pour aborder ces questions-là. Et qui est, voilà, la raison pour laquelle il est fécond, je pense, c'est parce qu'il est vraiment, il a vraiment émergé des personnes concernées par ces questions.
La prostitution est souvent forcée, notamment quand une prostituée est souvent prise d'un proxénète. Est-ce que la prostitution est considérée comme une violence tolérée par l'État ?
Euh, est-ce que je suis sans... Enfin, c'est une question, la question de la prostitution, elle divise beaucoup les mouvements féministes. Il va y avoir des mouvements féministes dits pro-sexe qui considèrent que la prostitution peut être un choix. Alors, pas dans toutes les formes, et notamment pas quand il s'agit de traite organisée de façon transnationale, mais que ça peut être un choix de profession comme une autre. Et donc, dans ce cas-là, ça serait plutôt pas vu comme une violence tolérée par l'État. Mais pour les mouvements qui sont plutôt... abolitionniste, effectivement, ça serait perçu comme une violence tolérée par tolérée, voire encouragée par l'État. Oui, tout à fait. Je vous ai complètement achevé là.
Vous avez vu la série Netflix sur Marilyn Monroe qui est basée sur l'ouvrage de Joyce Carol Oates, dans laquelle nous avons des scènes d'avortement sur Marilyn Monroe, dont une qu'elle aurait choisie, mais une qui est c'est suggéré que ça soit sur la part de Secret Service, parce que ça sera une enfant illégitime de JFK. J'exprime mon avis personnel. Si ce film... aurait sorti il y a 2-3 ans, j'aurais trouvé ça intéressant, mais le fait que ça s'est sorti en septembre, octobre, juste quelques mois après The Dobbs Decision, ça m'a beaucoup choquée. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, tu as lu le livre de Joyce Carol Oates? Je te conseille la série Netflix. Non. Ouais, je te conseille d'un coup la série pour voir, et moi je vais essayer de revenir sur le livre quand je peux. Mais je trouve qu'il y a un décalage entre... le questionnement de droit à l'avortement dans cette série et où on est après le Dobbs Decision. Donc, si vous avez votre abonnement Netflix, il y a ça à regarder potentiellement.
Le problème, c'est que c'est fictif. Parce que dans les
Libéraux,
vous voulez des enfants. Voilà. Il n'y a jamais eu d'avortement. Donc, je trouve que c'est un peu problématique de la mettre dans une vision comme ça, parce qu'elle n'a jamais voulu. Elle voulait défendre des enfants, elle n'a jamais pu en avoir, et le fait de montrer qu'elle en a avortement, je trouve ça un peu horrible, et ça la sexualise encore plus. Donc, moi, ce film, je le boycotte personnellement.
Il me semble qu'on en avait déjà discuté un tout petit peu, et on rappelle que Joyce Carol Oates dit toujours c'est une fiction. Mais des fois, on a du mal à savoir mettre le curseur entre la réalité et la fiction dans certains aspects-là.
Et puis le problème aussi, c'est que c'est un film qui est dirigé aussi par un homme, qui est dirigé par un homme, et du coup, qui dirige du coup le film sur la vie aussi d'une femme, et c'est ça aussi qui est un peu dérangeant du coup.
Il aurait pu peut-être avoir un meilleur choix, effectivement. Ouais. Après, j'avais juste lu une partie d'un entretien où Joyce Carol Oates a dit qu'elle était contente. Donc je n'ai pas encore vraiment creusé. Est-ce que vous aurez vu la docu-série sur la violence obstétrique, merci, où le médecin, le gynécologue va donner son propre sperme pour féconder les femmes qui avaient une question d'infertilité. Une jeune femme découvre qu'elle a 91 frères et sœurs parce qu'elle s'est mise sur Ancestry.com ou un site similaire. Donc cette histoire m'a complètement creeped, ça m'a completely creeped me out. Parce qu'on a un gynécologue qui a mis son propre sperme parce qu'il faisait partie du mouvement où il faut replenish the earth. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est un cas qui était assez...
Mais il n'est pas le seul. Hein. Wow. Il y a eu... Dans les années 80-90, c'était pas très encadré et je pense que beaucoup de médecins ont eu un espèce de fantasme de démiurge et donc voilà, ont beaucoup utilisé leur propre sperme pour des PMA. Peut-être sur des cas moins controversés que Blonde. Il y a eu un documentaire et puis vous aviez peut-être suivi ça dans la presse, tout ce qui concerne Britney Spears avec ce mouvement Free Britney. Et donc là, c'est intéressant aussi parce que c'est un peu un contre-exemple à ce que je vous ai dit. On parle souvent de personnes qui sont à la marge. Là, On a vraiment une superstar qui dispose d'un capital économique énorme. Et pourtant, on voit qu'elle est mise sous la tutelle de son père jusqu'au point où, effectivement, il ne souhaite pas qu'elle ait d'autres enfants. Et donc, elle est forcée d'avoir une contraception. Et donc, ça, c'est intéressant aussi comme contrepoint de voir comment peut s'exercer cette forme de violence. Donc, ça peut, si vous n'avez pas vu le documentaire, ça peut, vous le verrez peut-être d'un autre angle après avoir entendu tout ce que je vous ai dit. Et il y a pour le coup, alors je pense pas du tout que ce soit disponible sur Netflix, et c'est un film qui est vraiment sorti pour moi au mauvais moment, c'était juste après le Covid, qui s'appelle Never Rarely, Sometimes Always. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Qui est sur le droit à l'avortement aux États-Unis. On suit le parcours d'une adolescente. Alors c'était pre-Dobbs, hein, mais on suit le parcours d'une adolescente qui va essayer de mettre fin à une grossesse non désirée. Elle doit se rendre dans un autre état, et donc on voit un peu toutes les contraintes auxquelles elle fait face. Et pour le coup, c'est un film qui est filmé avec. Enfin, moi, j'étais vraiment très admirative de la tonalité et de tout ce qui se joue dans le film, sans qu'on tombe jamais dans le pathos ou autre. Donc, c'est un bon film à mon sens.
Dans un roman plus récent, James Carroll Oates avait écrit sur les luttes entre les pro-life et les pro-choice.
A Book of American Martyrs, qui est traduit aussi en français. C'est un sacré pavé, vous n'aurez peut-être pas le courage de le lire en anglais, mais qui a été traduit l'année dernière, je crois.
Les martyrs américains.
Ouais.
Surtout quand on a une blonde aussi qui fait à peu près 1000 pages. On est d'accord.
C'est ça, c'est un très bon roman, bien qu'il évoque des sujets compliqués, mais...
What we're really wanting is that you leave the seminar today with a better awareness of what kinds of violence against women exist. Maybe even though, you know, oddly enough, we're talking about all of these media representations of them, I want to be sure you leave the seminar with a raised awareness about that. We want you to be paying attention to what you see in the media tomorrow on actual November 25th, and that you have the courage to stand up in your own day-to-day life in society if there's a situation in which you're witnessing violence against women, and that you think, you know, about, you know, what you can contribute to eliminate violence against women. So thank you everybody for coming, and the next seminar will be
on the 15th of December. Olivia Gay, who is a photographer, will be here to be a seminar doctor.
Okay.
And everybody's welcome.
All right, everybody, thank you so much.
Thank you very much.